j'ai donné ce titre ce matin, un petit peu énigmatique, « Des lèvres sans fausseté ». Je vous propose qu'on prie. Seigneur notre Dieu, viens ouvrir nos cœurs, nos intelligences, par ton Saint-Esprit, à ta parole, à ce que tu veux nous dire. Amen. Maître Corbeau, sur son arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » Le corbeau ne se sent plus de joie, et pour montrer sa belle voix, ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Vous connaissez la fin, le renard ramasse le fromage et le corbeau devient noir de honte. C'est bien écrit, le poète a composé la fable pour qu'à la fin, on ait envie de dire « Ah, bravo le renard, tu l'as bien eu ce corbeau, tu lui as joué un bon tour pour lui piquer son fromage. » Ben oui, les oiseaux ça chante, mais les corbeaux ça chante pas, ça crie, ça croasse, et toi tu lui as fait croire qu'il avait une belle voix. Il est tombé dans le piège. Bien fait pour son bec. Alors oui, les arnaques, les tromperies, ça peut être drôle quand ça arrive aux autres. Mais quand ça t'arrive à toi, est-ce que c'est si drôle? Alors j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous savez quelle est la qualité la plus appréciée des Français? Peut-être même des Allemands, des Suisses, des Italiens, des Chinois, des Brésiliens? Alors, selon vous, et pour vous, quelle est la qualité que vous préférez chez les autres? Les réponses qui reviennent le plus souvent, c'est l'honnêteté, la franchise, la loyauté, la confiance. Je ne sais pas si c'est votre cas. Les gens qui cherchent à se marier rêvent de rencontrer un jour quelqu'un d'intègre en qui ils pourront avoir totalement confiance. Et qu'est-ce que devient un mariage lorsqu'il n'y a plus la confiance? La confiance et la loyauté, c'est aussi le ciment des amitiés. Et c'est souvent quand la loyauté fait défaut que les plus belles amitiés sont brisées. Ce sont des qualités qui sont même très recherchées dans le monde du travail. Personne n'aurait envie de rester chez un patron véreux qui truande. Et de même, un dirigeant va rechercher des hommes et des femmes en qui il peut avoir totalement confiance, en parole et en acte. Alors si tu veux progresser dans ton job, tu sais ce qu'il te reste à faire. Une partie de notre société, de notre civilisation, est basée sur ce principe fondamental de confiance, d'intégrité dans les relations. C'est vrai au travail, dans les familles, les entreprises, dans les grandes choses comme dans les petites. Imagine, tu conduis, tu arrives au feu vert, tu passes, mais c'est parce que tu fais confiance aux autres à droite et à gauche qui ont un feu rouge, qui vont s'arrêter. Tu leur fais confiance. En contrepartie, une autre grande partie de notre culture n'est basée que sur le mensonge, la tromperie. Comme dans la fable, c'est celui qui trompe qui est mis en valeur. On peut le voir dans les thèmes principaux de multiples films, de livres, de séries télé, de journaux, et même dans les manœuvres politiques ou dans le lobbying de grands groupes industriels. Chercher à être intègre dans sa vie personnelle et dans ses relations, c'est parfois démodé, has-been, est souvent impraticable. L'arnaque est devenue un sport national, un sport international. Il est partout, même sur Internet, surtout sur Internet. Alors j'ai trouvé cette citation de George Orwell dans 1984. À une époque de supercherie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Et notre société, elle est malade des étalages publics de déloyauté. Ça écœure la plupart d'entre nous. Dimanche prochain, nous sommes appelés aux urnes. Une grande partie de la population n'ira pas voter car elle est dégoûtée par quelques scandales retentissants. Et c'est tellement important d'aller voter. Alors, je vais refermer la parenthèse, mais ne votez pas quand même pour n'importe qui. Les scandales publics ne sont pas la seule cause de dégoût. Comme le corbeau de la fable, beaucoup d'entre nous ont été trahis ou trompés, au moins une fois ou deux dans notre existence. C'était tellement cynique et audacieux que peut-être tu t'en es pas encore remis. Un secret confié à un ami en lui disant de le garder, et puis tu t'es aperçu qu'il n'a pas tenu sa langue. Peut-être on a déformé la vérité pour te blesser. Je parie que tu as gardé tout ça en mémoire dans les moindres détails. Et tout ça, ça nous pousse à détester la tromperie. N'est-ce pas ? Ça t'a peut-être dégoûté d'appartenir à la race humaine. Et peut-être t'as eu envie à des moments de monter sur la table et de dire « Arrêtez de mentir ! Cessez, s'il vous plaît, mettez-vous enfin à dire la vérité !» Cet appel à éradiquer la fausseté de notre bouche est un leitmotiv dans le livre des Proverbes. Mais pas seulement, toute la Bible nous invite à proscrire l'usage du faux dans nos bouches. Dans Genèse, nous sommes mis en garde. Ben oui, c'est par un mensonge, c'est par un piège que le monde a basculé. Rappelez-vous, maîtres Adam et Ève, dans leur jardin fleuri, la main dans la main, heureux se promenaient. Maître serpent, par la haine déchaînée, leur teint à peu près ce langage. Hé, hey, bonjour, dame Ève, que vous êtes jolie, que vous me semblez belle. Sans mentir, Dieu a-t-il réellement dit de ne pas en manger ? Et c'est la première grosse arnaque qu'a subie l'humanité. Et ça nous a plongé dans le chaos que nous connaissons aujourd'hui. Et depuis ce jour, chaque homme, chaque femme est capable du meilleur comme du pire. Un peu plus loin dans l'Exode, Dieu donne à Moïse un cadeau pour toute l'humanité. Les 10 paroles, les 10 commandements, 10 conseils pour une vie heureuse. Et le dernier défend de faire un faux témoignage contre autrui. C'est-à-dire, ne mentez pas, ne déformez pas la vérité, ne jonglez pas avec les mots, ne dites pas n'importe quoi. Dès le départ, Dieu savait que sans la confiance et la loyauté, les mariages et les familles se désintégreraient, les amitiés se romperaient, les transactions commerciales seraient vouées à l'échec, les églises se diviseraient, les gouvernements seraient inefficaces. Bref, les bases de la relation et de la société humaine vacilleraient. Tout un bout à l'autre de la Bible, nous sommes invités à dire la vérité. Et comme toujours, le livre des Proverbes donne des formules très directes. De manière concrète et imagée, il vient nous aider. Alors je me suis amusé à compter les mots qu'il utilise pour parler de tout ce qui sort de notre gosier. Donc il y a les mots lèvres, bouche, langue, parole. Et ça fait plus de 150 références, rien que dans le livre des Proverbes, à l'usage de nos paroles, leur contenu et les intentions. Je vous propose qu'on lise juste, j'ai pris le chapitre 10. Ben, rien que dans ce chapitre 10, il y a 8 références. La bouche du juste est une source de vie. La bouche des méchants couvre la violence. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse. Le bâton est pour le dos de l'insensé. Des lèvres menteuses couvrent la haine. Celui qui répand de mauvais propos est stupide. Avec beaucoup de paroles, les offenses ne manquent pas. Celui qui retient ses lèvres est une personne de bon sens. La langue du juste est un argent de choix. Le cœur des méchants a peu de valeur. Les lèvres du juste conduisent la multitude. Les imbéciles meurent faute de raison. La bouche du juste produit la sagesse. La langue perverse sera tranchée. Les lèvres du juste connaissent la faveur. La bouche des méchants, la perversité. Vous voyez, rien que dans ce chapitre 10, il y a déjà 8 versets qui parlent de ce qui sort de notre bouche. Alors on ne va pas tous les lire, 150 références, ça ferait trop pour ce matin. Mais ça montre quoi ? Ça montre que c'est une préoccupation majeure du livre des Proverbes. Et au-delà, peut-être une préoccupation majeure de notre Dieu. Le Dieu, notre Dieu, c'est le Dieu de la vérité. N'est-ce pas ? Notre bouche délivre nos paroles. Elles sont le dévoilement de ce que nous pensons au fond de nous. Elles révèlent notre être intérieur. Elles sont le reflet de notre identité. Voilà pourquoi elles ont tant de valeur. La question qui nous est posée ce matin, c'est « À qui veux-tu ressembler ? À Dieu qui dit la vérité ? Comment vas-tu utiliser ta capacité de parler ?» Proverbes disent que l'homme qui marche la fausseté à la bouche, c'est un vaurien, c'est-à-dire qu'il ne vaut rien. Les proverbes utilisent un antidote radical, on vient de le lire. La langue perverse sera coupée, tranchée. Waouh ! Jésus utilise la même image. Si ta main est une occasion de chute, il vaut mieux que tu la coupes. Alors bien sûr, on va prendre ça au sens figuré, mais l'image est frappante. Si ta langue est perverse, menteuse, remplie de fausseté, il est préférable que tu restes, que tu vives le reste de ta vie sans parler. Deviens muet, ou alors ne dis que la vérité. Le livre des Proverbes affirme que la malhonnêteté est déplorable. Nous devons nous en débarrasser à tout prix. La malhonnêteté perturbe profondément la relation avec Dieu. Proverbe 12, 22 déclare « Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel ». La Bible emploie rarement une expression plus forte pour décrire la réaction de Dieu. Dieu a horreur du mensonge. Ça lui retourne l'estomac. Ça le rend malade. C'est pourquoi il ne peut pas rester en communion avec un menteur. La raison est simple, c'est le Proverbe 15, 4 qui nous le dit, c'est que la fausseté détruit et tue, une langue perverse brise l'âme. Tout autour de nous, dans l'église ou en dehors, nous rencontrons des personnes qui ont été brisées par des mensonges, des faussetés, des tromperies. Elle m'avait promis d'être fidèle. Il m'avait assuré qu'il ne boirait plus. L'artisan qui ne vient jamais finir les travaux. La dette ou la pension alimentaire qui n'est plus payée. L'ado qui fait croire des craques à ses parents. La personne qui a une double vie. La liste est sans fin. Ce sont tous des cas de tromperie et de fausseté. T'arrive-t-il d'amplifier la vérité? Par exemple, d'enjoliver un récit. De décrire tes performances en exagérant un peu. Ou alors de minimiser des faits. D'avouer un péché un petit peu moins grave que ce qu'il est vraiment. De suggérer qu'au fond, ce n'est pas si grave. Ou alors de déformer la vérité pour mieux enfoncer un adversaire, de relater des paroles et des actes sans les replacer dans leur contexte, si bien que l'intéressé semble stupide ou cruel. D'être dans une file d'attente et de raconter un gros bobard pour passer devant tout le monde. Qu'as-tu ressenti la dernière fois que tu as menti ? La plupart d'entre nous, on a une boule à l'estomac. Mais le pire, c'est qu'on ne sait pas trop quoi faire de nos yeux. Soit on regarde notre interlocuteur en face, soit on regarde le plancher. Alors, regarder quelqu'un en face en lui racontant un bobard demande beaucoup de savoir-faire. C'est le propre des menteurs chevronnés. Mais fixer le plancher, trahit inévitablement notre mauvaise foi. Avec le temps, nous apprenons que le mensonge mène à la catastrophe. Et cela, tout simplement, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu qui dit toujours la vérité. Au cœur même du caractère de Dieu, il y a une pureté qui le rend incapable d'être déloyal. Et à cause de ce fragment de pureté qui demeure en nous, jamais nous ne mentirons naturellement et facilement. Nous aurons toujours une boule dans l'estomac. Nous n'avons pas été créés pour mentir. Le seul choix raisonnable pour chacun d'entre nous consiste donc à cesser de mentir. Avoir des lèvres sans fausseté, comme disent les proverbes. Maintenant, complètement. Si nous avons même qu'une toute petite tendance à déformer la vérité, et c'est le cas, admettons-le, nous devrions dire « À partir d'aujourd'hui, je décide du fond du cœur, avec l'aide de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit, de ne dire que la vérité, toujours et en toute situation, pendant le reste de ma vie. » Et cette décision, si tu la prends, elle va améliorer grandement ta relation avec Dieu et avec les autres. Alors c'est sûr, tu auras à grandir en maturité et devenir pleinement responsable de tes actes et de tes paroles. Je m'adresse autant à moi qu'à vous. Mais cela suppose que tu sois déterminé. Ça suffit. Plus de demi-vérité, plus d'exagération, plus de déformation des faits, plus de mensonges. Alors vous avez compris le message de ce matin. Est-ce que j'ai besoin de vous convaincre davantage? Je pourrais continuer à développer de belles théories, mettre en lumière des beaux versets pertinents, prendre des exemples de Jésus, notre modèle et notre maître. J'aurais pu faire aussi une magnifique étude biblique en mettant en parallèle Proverbe et la lettre de Jacques. Vous vous rappelez le chapitre 3 dans la lettre de Jacques où il parle de l'usage de la bouche. Mais je crois que le message est suffisamment clair. Alors je ne vais pas vous libérer pour autant. Pour la seconde partie de votre prédication, je vous propose de prendre en considération trois conseils pratiques que le livre des Proverbes nous donne pour progresser, pour ne plus tromper personne et ne dire que la vérité. Le premier des conseils des Proverbes, c'est de parler moins. Vous voulez dire moins de mensonges ? Eh bien, parlez moins. Bon, ça vous fait rire. Mais c'est le livre des Proverbes qui le conseille. Avec beaucoup de paroles, les offenses ne manquent pas. Celui qui retient ses lèvres est une personne de bon sens. On l'a déjà lu tout à l'heure. On dirait une la palissade, n'est-ce pas ? Mais regardons la pratique. C'est Bill Hybels qui a inventé cette petite histoire et ça m'a plu. Supposons que tu as en moyenne 300 discussions par semaine et que tu montes environ 5 fois. Alors ça fait une statistique de mensonge de 5 sur 300. Alors j'invente un mot, ton taux de mensongeabilité. J'ai calculé 5 divisé par 300, ça fait 1,67%. Bon, tu vas me dire, c'est pas si mal, hein ? C'est un taux très très bas, on est en dessous des 2%. Eh ben non, ton taux de mensongeabilité est très mauvais. Il deviendra bon à 0,0000. Tu veux diminuer ton taux de mensonge ? Eh bien, la semaine suivante, tu réduis le nombre de discussions à 200. Et là, tu vas diminuer de 5 à 4 mensonges. C'est bien, tu as progressé. Mais ça ne suffit pas. Il faut continuer. Et de semaine en semaine, tu réduis. Et tu arrives à la dernière semaine où il ne reste plus que 60 discussions avec un seul mensonge. Ah ! Mais ça ne suffit pas. Il faut continuer. Mais maintenant, c'est facile. Il ne te reste plus qu'une seule discussion à éliminer, celle où il y a le mensonge. Et tu en gardes 59. Ça fait sourire, mais moins tu parles, moins tu vas exagérer, moins tu laisseras échapper des paroles que tu regretteras après, et moins tu feras des promesses que tu ne peux pas tenir. C'est ça, le conseil des Proverbes. Une autre manière de moins parler, c'est de ne pas répondre. Quand on te pose une question et que la réponse t'embarrasse, alors d'habitude tu cherches un truc bizarre, un peu langue de bois, une semi-vérité, semi-fake, tout ça. Eh ben non, tu n'es pas obligé. Tu as droit au silence. Et tu indiques, excuse-moi, je préfère ne pas répondre à cette question. Proverbe 15-28 dit, le cœur du juste réfléchit pour répondre, mais la bouche des méchants fait jaillir les choses mauvaises. Ce proverbe nous indique comment faire des progrès pour retirer la fausseté des lèvres. Est-ce que ça veut dire qu'il vaut mieux dire tout ce qui te passe par la tête ? Ou est-ce que tu ne serais pas un peu meilleur si tu pèses tes mots ? La Bible nous encourage à penser à ce qu'on va dire avant et surtout à filtrer ce qui va sortir. Vous savez, on dit ça aux enfants, hein, tourne cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Et alors on pourrait inventer un correcteur de langue. Vous savez, comme dans les traitements de texte, là, dans l'ordinateur, il y a un correcteur orthographique. Les mots qui sont mal écrits, pof, ils se soulignent en rouge. Et là, on pourrait imaginer que, pareil, on se fait équiper d'un correcteur de langue. Alors, il y en a deux modèles, il y en a un qui vibre et l'autre qui sonne. Et puis, ce correcteur va te donner deux questions au moment où les mots se forment dans ta tête. Première question, est-ce que ce que tu vas dire est vraiment utile ? Ben, si oui, vas-y. Ben, sinon, ne dis rien. Et la deuxième question, c'est est-ce que ce que tu vas dire est vrai, véridique, sans l'ombre d'un doute ? Ben, si ce n'est pas le cas, ne prononce pas ces paroles. Vous imaginez combien de discours inutiles, hypocrites et destructeurs pourraient être évités en prenant compte ces deux questions. Est-ce utile ? Est-ce vrai ? Parlez moins, donc, c'est le premier conseil des Proverbes. Et le deuxième des conseils des Proverbes, c'est de parler plus. Proverbe 15,4 déclare « Une langue bienveillante est un arbre de vie ». Alors, être loyal, ça comporte un autre aspect qui nous concerne tous. Oui, nous sommes appelés à éviter les propos inutiles, à réfléchir avant de parler, à ravaler nos paroles si nécessaire, pour éviter toute fausseté. Mais à l'inverse, si nous devons prononcer une parole de vérité, il ne faut pas que nous n'hésitions, ni que nous nous retenions, même si nous estimons que ça peut nous coûter cher. Combien il peut être difficile d'aborder des sujets délicats, et pourtant notre interlocuteur a absolument besoin de les entendre. Souvent, nous nous taisons de dire la vérité par lâcheté. Imaginez que vous ayez un ami qui se détruit à petit feu à cause de l'alcool ou d'une addiction. C'est compliqué de venir lui en parler, n'est-ce pas ? Quelqu'un qui maltraite son enfant, son épouse, son époux, quelqu'un qui se fait du tort à lui-même. N'est-ce pas plus facile de rester silencieux et de taire la vérité ? Ah oui, c'est plus facile, mais c'est tellement plus lâche. Et si on pense à toutes les personnes non-croyantes que nous côtoyons et apprécions, est-ce qu'on leur a parlé de notre Jésus, de notre Dieu miséricordieux, que nous avons tant de joie à proclamer et louer le dimanche matin ? Nous avons tous le même problème. Nous nous retenons de dire la vérité, car cela risque de nous coûter quelque chose. Cela pourrait jeter une ombre sur notre amitié avec quelqu'un. Ou alors notre image de marque va en prendre un coup. Je reste muet dans beaucoup de situations parce que j'ai peur de faire des vagues. Et puis j'ai horreur de faire des histoires. Alors je vais vous donner un petit témoignage personnel. Combien je suis reconnaissant à ceux qui, au fil des années, ont osé me dire la vérité. Les gens qui m'ont dit « Loïc, tu as besoin de Jésus-Christ pour réussir ta vie. » Ceux qui m'ont dit « Loïc, tu as besoin de travailler ton mauvais caractère. » Loïc, tu as besoin de régler ce péché dans ta vie. Tu as besoin de te soumettre à tes frères et sœurs plus anciens dans la foi. Ce sont des paroles de vérité que mes oreilles ont tendues un grand nombre de fois avant que ça passe de l'oreille au cerveau. Alors il y a bien longtemps, très très longtemps, lorsque j'étais fiancé ou jeune marié, j'avais 24, 25, 26 ans, une personne de confiance me déclara « Loïc, je pense que tu as vraiment besoin de voir un psychothérapeute. Loïc, je sais que tu pries beaucoup, que tu lis ta Bible, que tu la mets en application, mais j'ai l'impression qu'il y a une faille en toi. Tu as besoin d'un conseiller compétent pour y remédier. » Alors ça n'a pas été très facile à entendre pour moi. Je dis « Je ne vais pas aller voir un psychothérapeute, je ne suis pas fou !» Et j'imagine que ça n'a pas été facile à dire aussi pour cette personne. Mais c'était vrai, j'avais besoin d'aide. Alors j'ai cherché sur Nîmes un thérapeute chrétien. Moi, j'en connaissais pas. Alors je suis allé voir un thérapeute tout court. Vous savez, un psychothérapeute, c'est un peu comme le kinésithérapeute pour l'âme. Vous avez besoin que votre kiné soit chrétien ? Bon, s'il l'est, c'est mieux. Mais ce qui compte surtout, c'est qu'il soit compétent. Et donc, je suis allé faire, je sais plus, une dizaine de séances. Ça m'a beaucoup coûté, dans tous les sens du terme. Vous savez, c'est le genre de situation, comme pour aller chez le kiné, vous n'avez vraiment pas envie d'y aller avant. Et puis, une fois que la séance est faite, vous dites, ça m'a fait du bien. Donc, ça a été bénéfique pour moi. Et puis il se trouve que dans mon histoire, ce n'était pas la première fois ni la dernière que j'y allais. Mais ça m'a permis de débloquer une situation personnelle que je me trimballais. Ça m'a permis de me débarrasser d'un poids lourd. Sur le moment, ça n'a pas été facile à entendre ni à accepter. Mais je suis reconnaissant que cette personne ait osé payer le prix en me disant la vérité. Il fallait que je l'entende. Ça a été un arbre de vie pour moi. J'ai entendu la vérité sur moi. Elle m'a été dite de la bonne manière, avec bonté, avec bienveillance. Et ça, c'est le troisième conseil des proverbes. Donc parlez moins, parlez plus, et le troisième conseil, c'est parler mieux. Toute la question, c'est de dire la vérité, mais comment dire la vérité ? Proverbe 3:3 nous vient en aide. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur les tablettes de ton cœur. La Bible nous invite à ressembler à Jésus, au Christ. L'évangile de Jean déclare au chapitre 1 que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Paul, lui, dans Éphésiens 4:15, il nous invite à dire la vérité avec amour. La vérité et la bonté. La vérité et la grâce. La vérité et l'amour. C'est cette combinaison de vérité et de bonté, de vérité et d'amour, de vérité et de grâce qui va donner à nos paroles un pouvoir rédempteur. User d'un de ces deux ingrédients sans l'autre risque d'être très néfaste. Ceux qui assènent la vérité sans amour malmènent les autres. Oui, ils déclarent la vérité, mais au prix de dégâts considérables. À l'autre extrémité, certains manifestent de la bonté, de l'amour, de la grâce envers leur entourage, mais jamais leurs paroles agréables ne sont accompagnées de courageuses vérités. Ils ont un impact sentimental sur les autres, mais jamais ils ne les édifient, jamais ils ne les fortifient. Alors Bill Hybels, encore lui, nous donne une illustration. Imaginez deux zones de couleurs, une bleue et une jaune. Dans la bleue, il y a écrit « amour » et côté jaune, il est écrit « vérité ». Où est-ce que tu habites ? Dans la zone bleue ou dans la zone jaune ? Alors si tu es dans la zone bleue, c'est que tu es toujours prêt à donner une parole encourageante et aimante. Tu sèmes l'amour, la grâce autour de toi, mais tu évites systématiquement les paroles de vérité pour rester tranquille et pour ne fâcher personne. Ou à l'inverse, tu es plutôt quelqu'un de tranchant et tu vis du côté jaune. Ça ne te dérange pas de dire les quatre vérités à ton entourage. Il a bien besoin que quelqu'un lui dise. Et puis tant pis si ça plonge ton interlocuteur dans l'embarras. L'amour et la bonté te semblent superflus. T'es un petit peu brutal. Dans un cas comme dans l'autre, il faut que tu changes d'endroit et que tu te diriges dans la zone verte. La zone verte, c'est quoi ? Entre la boule jaune et la boule bleue, il y a la zone verte, là où se mélangent l'amour et la vérité. Viens habiter dans la zone verte. Il est important que tu apprennes à communiquer la vérité avec un esprit si bienveillant que tes paroles serviront de tremplin à la puissance transformatrice de Dieu, à l'image de Jésus qui apporte la grâce et la vérité. Chacun de nous, nous avons des exemples en tête de personnes bleues ou de personnes jaunes. Moi, personnellement, je préfère côtoyer des personnes vertes. Leurs paroles bienveillantes me font grandir. Et leurs paroles de vérité me signalent mon immaturité sans me briser le cœur. Je m'en rends compte, mais je me sens apprécié malgré tout. Qui veut déménager et venir habiter dans la zone verte ? Alors ce proverbe 3:3 nous propose une seconde idée. Que la bonté et la vérité, attache-les à ton cou. Ça veut dire quoi ? Fabrique-toi un joli pendentif. Un beau collier avec deux perles, la perle de la bonté, la perle de la vérité. Alors c'est bien pour ces dames, mais ces messieurs n'en portent pas, n'est-ce pas ? Bon, dans notre culture, les hommes portent rarement des colliers. Mais pour les hommes, on pourrait imaginer des décorations, hein, comme un peu comme la médaille du mérite ou la Légion d'honneur. Là, vous voyez là ? C'est très discret. Il y a la petite bande rouge là sur la veste. C'est chic. Que veut dire l'auteur ? Attache la vérité et la bonté autour de ton cou pour que ça se voie, que ton entourage le voit et le respecte. C'est ton insigne, c'est ton signe de reconnaissance, c'est un fait reconnu. Mon épouse travaille dans un lycée et il lui est interdit de porter une croix huguenote ou tout autre signe religieux. Mais aucune loi n'interdit de porter en pendentif la vérité. Elle se voit, c'est tout. Imaginez que la bonté et la vérité deviennent dans notre société le signe distinctif des chrétiens. Ils montrent dans leurs actions, dans leurs paroles, que ce sont des gens de confiance, des gens fiables, à l'image du Dieu de vérité qu'ils professent. Alors on a des siècles derrière nous, où ça s'est passé, et puis où ça s'est pas passé. Jésus disait ça d'une autre manière. Soyez le sel de la terre. Donnez envie aux autres d'être des disciples de Jésus. Il disait aussi, c'est à votre amour que le monde verra que vous êtes mes disciples. Porte la vérité et la bonté en collier. Paul déclare aux Philippiens, brillez dans les ténèbres et les hommes viendront à votre lumière. Jacques nous pousse à faire un choix. Choisis à quoi va servir ta bouche. Comme une source, est-ce qu'elle fait sortir de l'eau insalubre et malsaine ou fait-elle couler de l'eau potable, saine et bénéfique? Ta langue sert-elle à critiquer, maudire, dénigrer, tromper, râler? Ou vas-tu décider de la consacrer exclusivement à la bonté, l'encouragement, la bénédiction, les compliments, la vérité, l'amour? Attache la bonté et la vérité autour de ton cou. Imagine si ton entourage pouvait dire de toi, waouh, lui, elle, on peut toujours lui faire confiance. C'est une personne qui dit toujours la vérité, et en plus, de manière bienveillante. Waouh, c'est ça porter la vérité et la bonté sur notre poitrine. Alors, dernier point de ce matin, toujours dans la rubrique « Parler mieux ». Alors ça, c'est ce dernier usage de la langue, on ne le trouve pas dans les Proverbes, on le trouve dans Jacques, au chapitre 5, au verset 16. Il indique « Déclarez vos péchés les uns aux autres. Déclarez, avouez, confessez » dans d'autres traductions. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un usage réparateur de notre langue. Demander pardon pour chaque déloyauté dont je prends conscience. Des fois, ça prend du temps. Dès que tu prends conscience, que ta langue a fourché, va voir ton interlocuteur et présente-lui tes excuses. C'est ça qu'il dit Jacques. C'est une bonne manière d'utiliser ta bouche. Si tu ne réagis pas de cette façon, tu vas perdre définitivement ta paix et ta joie intérieure. Alors prends ton courage à deux mains et va présenter tes excuses et demande pardon. Si déjà tu pratiques cela, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Tu avais promis à quelqu'un de le retrouver pour le soutenir, puis tu t'es désisté à la dernière minute. Tu avais promis de téléphoner à quelqu'un, mais tu n'as pas tenu parole, etc., etc. Est-ce que c'est un comportement loyal? Est-ce que ça pousse les gens à avoir confiance en toi? C'est vraiment ça qui est en jeu. Alors nous arrivons à la fin. Je vous invite à un moment de prière personnelle. Imaginons à quel point nos familles, nos écoles, nos lieux de travail, nos églises et notre société tout entière seraient transformées si chacun de nous s'engageait à ne dire que la vérité et la dire avec amour. C'est à nous, les chrétiens, qui professons connaître le Dieu de vérité, de vivre dans la vérité et de faire le premier pas. On ne pourra pas forcer les autres à nous imiter, mais nous-mêmes, nous avons la capacité de devenir affectueux et loyaux. Nous pouvons vivre dans la zone verte, porter la bonté et la vérité en parure et utiliser nos paroles pour réparer nos erreurs. Pour finir, ouvrons notre cœur à Dieu et prions chacun à l'intérieur de nous. Prenons quelques instants, chacun face à notre Seigneur et laissons le Saint-Esprit nous éclairer à l'intérieur. Peut-être fais-tu partie de ceux qui ont besoin de parler un peu moins à tort et à travers. Tu as besoin de trier soigneusement les paroles qui se forgent dans ta tête pour filtrer et ne laisser sortir que celles qui sont nécessaires et véridiques. Peut-être fais-tu partie des personnes qui vivent du côté bleu ou du côté jaune et qui a besoin de déménager dans la zone verte. Peut-être tu as besoin de méditer sur à quoi sert ta bouche, de penser aux actions, à ce que fait ce que tu dis, prendre la décision de consacrer tes paroles à ce qui est positif, encourageant, constructif, et que ta langue devienne uniquement un objet de bénédiction et de bienveillance. Peut-être as-tu besoin d'entreprendre une démarche inédite pour ta vie. Commencer à confesser, c'est-à-dire reconnaître quotidiennement quelques déloyautés pour lesquelles tu dois demander pardon à la personne que tu as offensée. Si tu sens que le Saint-Esprit te pousse dans l'une de ces directions, accepte-le et avance dans cette voie. Tu peux déclarer dès à présent à Dieu que tu es désolé et que tu vas apprendre à mettre son conseil en pratique, et certainement d'une manière ou d'une autre, il te répondra. Je connais parfaitement tes mensonges, tes exagérations, tes demi-vérités, tes promesses rompues et tes engagements hâtifs que tu n'as pas tenus. Je t'ai vu et je t'ai entendu te détourner de moi et succomber à tout cela. Mais je t'aime toujours. Aussi loin que tu sois éloigné de moi, aussi profondément que tu te sois laissé aller dans la fausseté et la déloyauté, je t'aime quand même. Si tu veux te détourner de ton péché, si tu veux avancer sur la nouvelle voie que je te propose, par les conseils des proverbes de Jacques, ouvre-moi ton cœur et crois que Jésus, mon Fils, te donne, par la croix et la résurrection, la capacité d'une nouveauté de vie. Je te pardonne de ton péché. Je te soulage de ta culpabilité. Je transforme ta vie peu à peu. Mais si lorsque tu pries, tu entends une voix intérieure qui te condamne, qui te critique ou qui te susurre que tu n'en seras jamais capable, ça ne vient pas de Dieu. Si c'est une voix qui te souffle mielleusement que tu es vraiment bon et que tu es au point dans tous ces domaines et qui te rappelle uniquement tout ce que tu as fait de bien ou dit de bien, ce n'est peut-être pas la voix de Dieu non plus. Si tu entends une voix qui exprime un amour inconditionnel, qui te rappelle que tu es accepté à 100% malgré tes points faibles, une voix qui reconnaît tes capacités tout en parlant des améliorations à apporter, alors c'est probablement Dieu qui te parle. Comme tu le sais, c'est lui qui nous offre le don inestimable de la grâce et de la vérité, de la bonté et de la vérité, de l'amour et de la vérité, car il détient lui-même ces qualités. Jésus les a démontrées. Nous pouvons donc l'écouter joyeusement, car il est vrai, et il nous aime plus que nul autre. Et il nous le dit encore à cet instant. Amen.